Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Alors, Xavier Duranger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur de théâtre, scénariste, réalisateur, metteur en scène. Au cinéma, on vous connaît entre autres pour ce film La Conquête, hein, qui évoque l'ascension de Nicolas Sarkozy jusqu'à son élection à la présidence du pays. Puis vous êtes aussi écrivain, puisque vous publiez ce premier roman, Sfumato, édité par Le Passage. Alors, il y a deux parties dans ce roman, pour moi, hein, qui, si j'ai bien compris, est un roman autobiographique. Et donc, deux parties bien distinctes, si distinctes que moi, j'ai pas vraiment réussi à faire le lien entre les deux. On nous expliquerait, hein, justement, tout à l'heure, en quoi elles font sens, néanmoins, ces deux parties. Donc, dans la première partie, vous évoquez les pérégrinations de Raphaël, dans Paris. Votre héros, personnage un peu rock'n'roll, un peu... loser, si je puis dire, hein, quand il achète un appartement, il se retrouve avec une petite chambre de bonne. Alors ça donne lieu à une scène assez croustillante avec ses, enfin des scènes plutôt croustillantes avec ses voisins qui fument beaucoup, voilà. Donc pérégrination en compagnie de son ami Simon. Et puis sa rencontre surtout par un hasard fantastique avec le théâtre. Et puis donc j'évoquais une deuxième partie où Raphaël l'a fait une autre rencontre mais avec un personnage, Victor, et là il découvre une sorte de monde parallèle, ésotérique en tout cas, et là le roman va prendre une autre forme, une toute autre direction. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage, de ce Raphaël, qui est-il, d'où vient-il et surtout qu'est-ce que lui apporte le théâtre et puis ensuite sa rencontre avec Victor?
En fait, vous me demandez de parler du roman en entier.
Voilà.
Donc, c'est trois questions. Une, bon, bah, Raphaël et Simon, c'est un roman, j'allais dire, à 98% autobiographique. Ce qui m'intéressait, c'est de partir sur le fait que le hasard est une loi qui voyage incognito et qu'il n'y a pas de hasard sans cause. Et que c'est les rencontres qu'on va faire dans la vie qui vont ou qui peuvent changer entièrement nos existences. La première rencontre, alors qu'on était des gamins de banlieue, c'est vrai que on pensait qu'à fumer des pétards, à rentrer des filles, à essayer de rentrer dans des soirées, à bouger, à essayer de rentrer dans des boîtes, à trouver de quoi bouffer, comment gagner un peu d'argent. On était un peu des losers, des bulles d'eau comme ça dans Paris. On allait transformer un peu Paris comme une espèce de grande salle de jeu interactive. On avait nos coins fumeurs. Enfin voilà, c'était un monde un peu qui appartiendrait, j'allais dire, au milieu des années 80. Bien que le roman, j'ai essayé de l'inscrire aujourd'hui dans un temps, j'allais dire, d'aujourd'hui. Et ça a été, avec ce personnage de Simon, j'allais dire, la première rencontre, ça a été d'une manière complètement hasardeuse, oui, avec le théâtre. Un jour, on avait notre voiture qui était tombée en panne d'essence, on cherchait des pinces, on a poussé des portes, on est rentré dans un grand, grand bâtiment en briques rouges, et au troisième étage, on a poussé une porte, et là, il y avait un cours d'art dramatique. Le workshop de Bob l'Américain, de Robert Cordier en fait. Et là, on a vu des jeunes actrices, des jeunes acteurs en train de bouger dans tous les sens. On a l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Et on a entendu une voix qui nous a dit « Asseyez-vous là-bas, au fond, là, asseyez-vous dans le canapé en cuir. » Donc on s'est assis dans le canapé en cuir et on est resté pendant 4 heures scotchés. Ça a été la première rencontre avec les grands auteurs, Shakespeare, Tchekhov, les auteurs contemporains américains, Sam Shepard, John Cage et d'autres.
Dans
le roman, j'explique que la première audition qu'on me fait passer, c'est sur le monologue d'Hamlet. « Aussi cette roche solide chair voulait se fondre, se liquéfier ou se résoudre en rosée », que je comprends rien de ce que je dis. Et voilà. Mais comment, j'allais dire, le théâtre, dans un monde aujourd'hui où c'est vrai qu'on entend très 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 peu parler de culture et d'artistique, même avec nos politiques, c'est le seul pendant pour lutter contre tous les extrémismes, qu'ils soient idéologiques, politiques ou religieux. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'absence en fait de la culture et de l'art dans notre société et sa représentation même sur les radios et sur les chaînes de télé. Voilà, et j'avais envie de dire dans ce roman que c'est aussi la culture, la rencontre avec le théâtre, avec les grands auteurs, qui vont me donner complètement une vision poétique, une autre vision du monde et une autre façon d'appréhender en fait mon prochain, l'homme et le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et puis la deuxième rencontre, c'est avec un vieil homme qui s'appelait Victor, qui était un vieux juif russe américain, qui avait été conseiller à la Maison Blanche. C'est un monsieur qui avait 87 ans, qui avait été batteur de jazz de John Coltrane, un grand jazzman américain, et que j'ai rencontré d'une façon complètement hasardeuse aussi. Au café, il lisait la Pravda, le journal Haaretz, le journal israélien, des journaux en anglais, en français. Et c'est quelqu'un qui ne lisait que les brèves. Il disait, dès qu'il y a un papier d'information, forcément, on ne sait pas d'où vient l'information, qui la donne, quelle est l'idéologie et à qui elle profite. Donc il lisait que les brèves, mais pour un événement, il la lisait dans tous les journaux du monde entier, pour savoir comment elle était traitée. Et en fait, cet homme, un jour, m'a pris en fait sous sa coupe pendant 3 ans, 3 heures tous les matins, en me disant, voilà, si tu veux comprendre le monde, de ce qui se passe aujourd'hui, il faut que tu aies une compréhension en fait de l'histoire du monde depuis au moins 5000 ans, voire 10 000 ans. Sinon, tu ne comprendras rien de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, tu ne comprendras pas qui étaient les Perses et les Iraniens d'aujourd'hui, qui sont les Afghans, tu ne comprendras pas Israël, tu ne comprendras pas les Palestiniens, tu ne comprendras rien de rien si tu ne sais pas l'Ukraine ou la Tchétchénie, ce qui s'est passé depuis des siècles et des siècles. La Syrie, aujourd'hui, l'Irak, si on ne sait pas historiquement ce qui s'est passé, on ne peut rien comprendre. Voilà. Donc, il m'a pris un peu sous sa coupe et il m'a expliqué ce qui s'était passé depuis 5000 ans, 10 000 ans. Et puis un jour, bon, ça c'est autre chose, parce qu'il avait des connaissances qui étaient très très vastes. Alors ça allait de la cabale juive au batine, qui est une expression aussi ésotérique à l'intérieur de l'islam, qui est une autre façon de découvrir la science des lettres, en fait, al-simia, d'Ibn al-Arabi, et qui, un jour, devant un tableau de la Joconde, m'a dit « Toi, tu crois que c'est un tableau ?» Je dis « Bien sûr, c'est un tableau. » Il m'a dit « Bah oui, mais c'est pas qu'un tableau, c'est une cartographie, en fait, à l'huile. » Et les anciens, en fait, à l'intérieur du sfumato, derrière le sfumato, qui est une technique de peinture de Léonard de Vinci, qui fait des petits brouillards et des petits glacis dans les arrière-plans des tableaux, que derrière ce sfumato, ces écrans de fumée, se cachent en fait des secrets d'initiés qui se transmettent de siècle en siècle. Et que, aussi bien, par exemple, les bergers d'Arcadie, par exemple, de Poussin, reprend les mêmes arrière-plans qu'un autre célèbre tableau de Léonard de Vinci à 100 ans près, 100 ans après, ou chez Raphaël, et que dans les arrière-plans des tableaux se cachent en fait des endroits, et que ces endroits en fait cachent des secrets, des tombeaux ou d'autres choses. Voilà. Et donc à partir de là, il va me faire rentrer complètement dans un monde complètement incroyable. Ça va devenir une obsession pour moi, surtout quand il va me dire avant de mourir, ce qui serait bien, c'est que cette montagne qui est derrière, tu vois, qui est représentée dans tous ces tableaux, qu'est-ce qu'elle cache? Est-ce que c'est un rapport à Dieu, l'analogie, la quête de soi-même? Mais est-ce qu'elle ne cacherait pas autre chose à l'intérieur d'elle-même? Il va me demander de la retrouver d'une manière géographique. Et ça va prendre 20 ans de ma vie. Et pendant 20 ans, je vais vivre avec cette obsession, à essayer de retrouver cette fameuse montagne qui est dessinée dans les arrière-plans des tableaux des maîtres. Et je vais mettre 20 ans d'obsession et je vais la retrouver. Je vais retrouver l'endroit en fait précis, et à partir de là, je vais décider d'en faire un roman. Donc c'est vrai que le roman a deux grandes parties, une partie, j'allais dire, de un peu de saltimbanque, un peu rock'n'roll, un peu cru, un peu cul, très drôle, parce que je pense que la première partie est assez drôle en fait dans la...
Notamment, c'est vrai, un passage très très drôle sur cette rencontre avec les voisins aussi.
Les voisins étaient en hôpital psychiatrique de jour. Mais tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Enfin voilà, tous les rencontres avec le voisin, avec les filles, voilà.
Et du coup, excusez-moi, il me vient une question. Est-ce que vous pensez que ça aurait été possible dans une autre ville que Paris, en fait, une ville de province? Est-ce qu'on peut faire ce genre de rencontre, que ce soit les voisins, le Victor, parce que finalement, Paris tient aussi quand même une place, j'allais dire capitale, c'est idiot, mais dans la première partie du roman.
Écoutez, moi j'ai grandi à Montigny-les-Cormeilles, à Argenteuil, j'ai grandi en banlieue. À 18 ans, je suis arrivé à Paris. Voilà, et puis assez rapidement j'ai fait du théâtre en boîte de nuit, et puis cette rencontre avec cette école qui a fait que je faisais du théâtre en boîte, je faisais des trucs, parce que la boîte de nuit c'est un endroit quand même, un théâtre génial, parce qu'il y a un plateau, il y a du son, il y a de la lumière, donc on peut faire du théâtre. Et c'était à Paris, donc j'ai situé cette histoire à Paris, puisque moi je l'ai vécu à Paris. Maintenant je pense que Je regardais dernièrement, il y a 3-4 jours, un documentaire, par exemple, sur la ville de Rennes, dans les années 80, sur la même où Rennes est complètement rock'n'roll, un peu punk, décadente, avec Marquis de Sade, avec enfin, tout ce rapport, ce rapport qu'il y a eu avec la musique. On aurait très bien pu, mes personnages auraient très bien pu, en fait, vivre à Rennes ou vivre à Tours. Il suffit parfois de regarder ses voisins. Il y a des cercles, hein. Il y a des cercles, j'allais dire, de bonheur, et puis il y a des cercles infernaux, hein, aussi. Ouais. On peut se retrouver avec des voisins qui sont en hôpital psychiatrique et qui vont faire comme ils m'ont fait, qui m'ont déboîté ma porte avec une masse de chaudronnier en me disant à 4h du matin, le bruit vous dérange, et qui étaient à poil devant moi. Donc, bien sûr qu'on peut retrouver des choses comme ça un peu partout. Sauf que Paris a un rôle...
Une sensibilité quand même particulière, hein, je pense quand même. Ça n'arrive pas à tout le monde, ça.
Je sais pas si ça arrive à tout le monde. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. C'est pas... La question n'est pas là. Paris, il y a quelque chose... j'allais dire, Paris polarise pratiquement. C'est-à-dire que Paris est sur le chemin, en fait, d'un méridien... qui est un méridien, en fait, polaire, qui commence à Saint-Paul, justement, sur mer, POL, qui va passer par Amiens, par Paris, pour la faire courte, par Bourges, par Carcassonne, et puis qui va finir du côté de Rennes-le-Château, et après aller du côté des Pyrénées.
Voilà, c'est là où vous vous emmenez quelque part, où moi, en fait, en tant que lectrice, j'ai du mal à aller, en fait.
Ben, parce qu'il faut prendre une carte et puis regarder les endroits que je décris. Et puis, on peut prendre Google et regarder aussi les tableaux que je décris. Parce qu'en fait, ce roman, c'est un roman à clé. Donc, on fait sa propre quête. Et il y a vraiment une quête initiatique très, très profonde, très, très belle à l'intérieur. Je décris les blasons, je décris les villes traversées. Et ce sont des secrets, mais qui appartiennent à notre patrimoine. C'est des secrets absolument extraordinaires. Donc, il y a un pôle qui est à 2,20,14, en fait, du méridien de Greenwich, qui est l'ancien méridien, la ligne rose, dont parlait d'ailleurs le Da Vinci Code. Et à partir de là, c'est une ligne réelle avec des constructions, avec les tombeaux des rois qui est inscrit sur cette ligne-là, avec des histoires extraordinaires, que ça se passe à Amiens avec la découverte de Saint-Martin, avec les conversions, avec les rois mérovingiens, que ça passe par Saint-Denis, ça passe par la Grande Pyramide, ça passe par le jardin du Luxembourg. Et c'est une ligne comme ça qui va nous amener toujours sur des noms aussi de roses, d'endroits, c'est la ligne rose, fameuse ligne templière, et à partir de là, on va passer par Bourges, qui est les Bituriges, les rois du monde à l'époque, et puis par toute l'histoire aussi des Celtes, des peuples gallo-romains et de tout ce qui s'est passé. Mmh. Voilà, et c'est une ligne, c'est un méridien, c'est une ligne à la fois invisible sur lequel s'est construit en fait toute l'histoire de notre pays. Donc c'est pas juste comme ça un trait d'auteur, j'allais dire, de décider d'une ligne. C'est un vrai, il y a une vraie quête, et sur cette ligne tout se passe.
Ce qui est remarquable dans votre livre, en fait, c'est que vous mêlez ces deux genres-là, ce que vous venez d'évoquer, et puis tout le côté rock'n'roll de cette jeunesse.
Oui, mais c'est pas. Mais c'est pas du tout. C'est pas du tout ça. On peut passer d'un monde complètement profane où on s'interroge en fait sur le monde, sur le religieux, sur l'invisible, sur le transcendantal, et puis fumer des pétards, et puis vivre comme ça, faire du rock'n'roll, faire de la poésie, écrire un peu, aimer la photo, aimer un peu la peinture, voilà, avoir des petits carnets, faire des trucs, voilà, vivre comme un saltimbanque, et puis être touché en fait par des rencontres, et qui vont faire que vous allez commencer par lire, je sais pas moi, parce que là il y a un dessin animé, je sais pas pourquoi je parle ça, on va commencer à lire Khalil Gibran, le prophète, et puis à un moment on va commencer à lire, à s'intéresser, ah oui mais j'ai entendu parler, c'est quoi la cabale, donc s'intéresser un petit peu aux grands principes de la cabale, donc on va tomber sur un bouquin de Wachnin, et puis après on va découvrir des petites citations, on va aller lire Ibn al-Arabi, puis après on va s'intéresser au sanskrit, puis après on va s'intéresser au grec ancien, et puis après on va s'intéresser à la peinture, et puis après on va chercher plus profondément. On dispose d'outils absolument magnifiques aujourd'hui avec Google, et en fait, j'allais dire, le rapport à l'initiation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi l'histoire, d'où je viens et où je vais, peut tomber sur n'importe qui. Le rapport initiatique, c'est pas juste pour, j'allais dire, une caste de gens bourgeois et tunés. Ce serait dramatique. C'est, tout le monde peut être touché à un moment par cette quête de lui-même et cette quête d'universalité.
Et d'essayer de faire des bonnes rencontres, notamment le théâtre.
De faire des bonnes rencontres et puis à certains moments, de se donner le temps. Vous savez, dans le judaïsme, il y a une phrase qui est magnifique. Généralement, on s'arrête toujours à la fin de la phrase. C'est « Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ». Et la phrase continue « Va, c'est-à-dire voyage et étudie ». Et on étudie, et c'est l'étude en fait, c'est l'étude et la connaissance, c'est avec la naissance. C'est comme si on était porteur en fait de tous les plus grands secrets du monde à l'intérieur de nous et qu'on va se mettre en quête en fait d'une sorte d'Indiana Jones, mais à notre niveau, sans passer par les jeux vidéo, mais de le faire en vrai, et de s'apercevoir que, voilà, on va faire une sorte de grand jeu de loi, on peut l'écrire L'OIE ou de loi LOIS, et à partir de là, de s'intéresser à la langue des oiseaux, par exemple, ce que je viens de faire, comme on dit, Jésus naît dans l'étable, oui, c'est dans l'étable de la loi, c'est pas dans une étable avec un bœuf et un âne. Voilà, par exemple, et de s'amuser à ça, et de s'apercevoir qu'il y a, que déjà on s'emmerde plus, on se fait plus chier, et qu'il y a des sortes de champs poétiques comme ça qui s'ouvrent à l'être humain et qui vont faire qu'il va voyager. Moi, je fais des voyages à travers le monde aujourd'hui par rapport à des quêtes et par rapport à des recherches, par rapport à des architectures, par rapport à des histoires, par rapport à des grands traits de la littérature, et que je marche en fait parfois sur les pas de certains qui ont marché avant moi, et que parfois je marche sur mes propres pas à essayer de rendre compte en fait de ces études, de cette rencontre avec Victor. Et si j'ai fait ce roman, moi qui fais du cinéma, bah, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait Géraud Paradis, quand l'enfer est ici, ou La Conquête, ou La Nage indienne, ou Choc Di, des films sur en Thaïlande comme Lady Bar, ou Les Vilains, où j'ai fait une vingtaine de pièces de théâtre, et j'ai eu la chance que mes pièces soient traduites en 25-30 langues pour certaines, et de jouer dans le monde entier. Faire ce roman, c'était pour moi une transmission. Une transmission, et de dire, voilà, tout simplement, il n'y a pas de hasard sans cause. Quand deux personnes se rencontrent par hasard, il y a forcément quelque chose qui doit débouler en fait de ces univers. Parfois, on n'écoute pas suffisamment la personne qu'on vient de rencontrer par hasard. Parfois, c'est nous qui avons quelque chose à dire à l'autre. Ou parfois, l'autre a quelque chose à nous dire. Mais finalement, on fait comme si de rien. Et que souvent, un homme qui rencontre une femme, si demain vous rencontrez un homme nouveau, il va vous dire... Ah, mais moi, j'ai une petite maison en Birmanie, il y a un endroit que j'adore, et puis, si tu veux, j'adore regarder les étoiles, tu vois, cette étoile, elle s'appelle comme ci, celle-là, elle s'appelle comme ça, et puis il va te dire, j'aime bien le basket aussi, et donc, toi, tu connais pas les étoiles, tu connais pas le basket, et que tu connais pas la Birmanie. Et toi, tu vas lui raconter 3-4 choses, tu vas dire, ah, ben, moi, j'ai ma famille, ils élevaient des taureaux dans le sud de l'Espagne, avec des petits chevaux de course, machin, et si tu veux, on peut aller à Séville ou à Cordoue, si tu veux, l'été prochain, et il va s'apercevoir qu'il va découvrir Séville et Cordoue qu'il ne connaissait pas. Donc en fait, chaque personne qui se rencontre, c'est à chaque fois un univers qui rencontre un autre univers, et ces deux univers peuvent accoucher d'univers encore plus fabuleux. Voilà, et c'est ça que j'ai voulu raconter, c'est que nos existences, elles changent, par rapport à la multitude des gens qu'on rencontre. On n'apprend pas bien d'une personne, on apprend de la multitude.
Vous avez parlé donc de transmission, c'était une des questions que j'allais vous poser. En fait, en quoi la forme du roman vous permet de vous exprimer là plutôt que par le théâtre ou le cinéma ? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus, en fait ? Pourquoi ça vous permet de transmettre mieux qu'au travers d'une pièce ou d'un film ?
Parce qu'un film, on est calibré. Un film, c'est une industrie. C'est la rencontre entre l'art et l'industrie. Vous faites des films aussi qui vont passer à 20h45 sur France 2, sur TF1, sur Canal. Ça, ils demandent souvent des genres, des choses. On parle pas tellement de poétique et d'ésotérique, et même pas de social et même pas de politique aujourd'hui dans les films. On fait beaucoup de films.
Vous en fait... parlez-vous justement dans
oui,
la
conquête. Oui, non, mais j'étais le premier. J'étais le premier à le faire sur un président en exercice. Ce que je veux dire, c'est que le social, ça intéresse toujours quand ça se passe en Irlande ou dans les quartiers populaires aux États-Unis, mais on n'a pas trop envie de voir notre propre misère, nous, en France. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a très très peu, en fait, de films. On essaye de faire des films qui passent à 20h45 pour la paix sociale à tout prix. Regardez les programmes aujourd'hui, c'est toujours un meurtre dans les 3 premières minutes, et puis après un flic essaye de trouver, de résoudre ça. Vous zappez sur les chaînes de TF1 à France 2, à France 3, à Canal, c'est que des histoires de meurtre et tout ça. Moi je regrette, il n'y a pas beaucoup de monde qui a déjà vu quelqu'un se prendre une balle dans la tête devant lui. Et pourtant, on va vous mettre dans une paranoïa tous les soirs et de voir toujours les mêmes choses et toujours les mêmes programmes. Donc voilà, j'avais envie, moi, avec un roman, d'être libre. Parce que,
le théâtre ne vous apporte pas cette liberté ?
Le théâtre apporte cette liberté, mais le théâtre, c'est, j'allais dire, chaque chose que vous devez raconter a sa propre forme. Il y a des choses, des histoires, par exemple, où on sait que c'est pour le théâtre. D'autres histoires, on se dit, tiens, ça c'est pour le cinéma. Ou d'autres, ben non, ça c'est pour la télé. Ah ça, ce serait formidable pour une série. Et puis ça, ce serait bien dans des haïkus. Et puis là, ce serait bien dans des petites chroniques. Et puis d'autres, en fait, ce serait formidable dans un roman. Le roman permet en fait une mise à nu. On est seul vis-à-vis de soi-même. On n'a personne qui va vous dire, ouais, tiens, tu devrais écrire ci ou ça, ou pour cet acteur, ou faire... On ne répond à aucune, à aucune industrie. On n'est pas dans un rapport à l'argent quand on écrit un roman. On n'a pas une commande pour écrire un roman.
Dans la première phase. Ensuite,
oui, après, vous allez faire la course avec les éditeurs. Mais dans un premier temps, le roman, on est entre soi et soi-même.
Est-ce que vous avez été dans l'obligation de faire des concessions, vous, sur ce roman, après
la... Non, il était beaucoup plus long. Il faisait 550 pages. Donc, on a coupé quand même des pages, heureusement pour vous, parce que c'était plutôt dans la deuxième partie. Comme visiblement la deuxième partie vous a touché moins que la première partie, mais voilà, c'est plutôt dans la deuxième partie.
Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas du tout.
Mais c'est ça aussi qu'il faut essayer de voir. Est-ce que la littérature peut aussi amener, bon, au cinéma aussi, c'est trouver des nouveaux rythmes et de nouvelles formes. C'est, il y a des formes combinatoires. Moi, ce que j'ai voulu raconter avec ces deux parties, c'est que l'homme du début n'est pas le même qu'à la fin. Mais l'homme de la fin, c'est aussi celui du début. Voilà. Et donc, on peut complètement être bouleversé. Vous pouvez rencontrer un jour un mec, il est trappeur au Canada, et puis vous le retrouvez 10 ans après, il est à la tête d'une holding. Vous allez dire, mais comment t'as fait pour être de trappeur au Canada et puis d'aller à la chasse au castor? Et tu te retrouves, ah bah parce que il y a eu ci, j'ai rencontré un mec qui un jour m'a dit, tiens, ce serait bien qu'on exporte de la neige, et puis on a décidé de faire ça, et puis aujourd'hui on est richissime. Voilà, alors ça peut être ça, comme vous allez pouvoir rencontrer un mec qui aurait fait des grosses conneries, un voyou, et puis tu le rencontres 15 ans après, et puis il est prêtre, ouvrier, dans une cité, il est prêtre. Tu te dis, mais attends, c'est pas toi qui faisais des braquages et tout, et aujourd'hui t'es prêtre, mais comment t'as fait? Ah, ben il faudrait que je te raconte ma vie, mais tu sais, Saint François d'Assise aussi, il est parti faire la guerre. Tu sais, il y a énormément de saints qui sont partis aussi faire la guerre, qu'on fait ci, qu'on fait ça, et puis après qu'on... compris, si tu veux, d'autres choses. Donc voilà, ce qui est intéressant dans la vie, sont des parcours. C'est que qu'on prenne à droite ou à gauche, qu'on fasse à un moment le bien ou le mal, c'est notre chemin. Voilà, c'est notre chemin qui s'écrit comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de vivre, c'est de multiplier les expériences, c'est de multiplier les champs poétiques. Voilà, c'est ça qui est important et c'est ça que j'ai voulu raconter dans ce roman.
Juste pour terminer, d'un point de vue littéraire, on ne peut pas dire que vous vous embarrassez de forme. Il y a beaucoup de dialogues. D'ailleurs, on a l'impression des fois de voir les scènes. Hein. Je ne veux pas vous ramener au théâtre, hein, mais pour autant, c'est le sentiment que j'ai eu. Vous avez des influences
Non, moi j'ai toujours aimé la littérature américaine. Quand vous regardez un John Fante, par exemple... Les Compagnons de la Grappe, Mon Chien Stupide, Demande à la Poussière, As the Dusk, ou des gens comme Bukowski ou de la Beat Generation ou d'autres, c'est très dialogué. C'est-à-dire que nous, moi je préfère travailler le fond, les histoires que je raconte. Moi je raconte des histoires. Moi ce que j'ai envie, c'est que la personne qui lise mon livre, il a l'impression que je suis en train de lui parler à l'oreille, que je suis en train de lui raconter... des choses et qu'il a envie de rire, de pleurer, d'être touché, d'être ému, de se poser des questions. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. À partir de là, la forme, je sais que la forme dialoguée, avec beaucoup de dialogues, n'est pas tellement une forme de littérature française. Mais aujourd'hui, moi, j'essaye d'écrire sur des sujets que je connais parfaitement, que j'ai vécu. Je suis pas là en train de me dire « Ah putain, ça pourrait faire une bonne histoire ». Ouais, si ça peut faire une bonne histoire, je vais le faire pour le cinéma. Mais la littérature est pas pour dire « Ah putain, ça pourrait faire une bonne histoire ». Non. Donc moi, je suis pas là en essayer de faire du style pour être beau, mais je pense quand même que j'ai un style qui est limpide, et en tout cas avec une respiration, une rythmique, une lumière, des couleurs, et quelque chose comme ça aussi d'une poétique et des mots qui s'entrechoquent et des choses qui peuvent faire rire ou émouvoir. Voilà, pour moi, c'est la simplicité. Pour moi, le vrai style, c'est la simplicité épurée, être dans cette rythmique, comme un conteur, comme un saltimbanque, quelqu'un qui saute sur un banc et qui vous raconte quelque chose et vous êtes accroché à l'histoire et vous avez envie de vivre avec ces personnages et ces personnages qui vous attirent et qui vous parlent au milieu de la nuit. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas de faire des jolies phrases pour faire des jolies phrases. Vous savez, Tchekhov, un jour, il a dit un truc incroyable au théâtre. Il dit, souvent, je vais dîner avec mes amis auteurs de théâtre qui veulent toujours écrire des choses très belles, très intelligentes, très raffinées, qui veulent toujours choisir des mots incroyables. Mais dès qu'on bouffe ensemble avec nos copines, à la fin, ils sont complètement bourrés, ils montent leur cul et ils montent sur la table. Voilà. Donc Tchekhov a choisi finalement de raconter les choses et de mettre à nu ses personnages et qu'ils se mettent debout sur la table, plutôt que d'essayer de faire genre. Voilà. Donc la littérature, c'est un rapport entre soi et soi-même, c'est sa petite voix intérieure, c'est sa voix poétique, et on n'a pas à tricher avec notre propre voix poétique. Voilà.
Vous avez des projets là de plein, romans à nouveau
plein, plein.
D'accord. Donc,
on non, pas plein, pas chose. Plein, mais en tout cas un. Oui, un, oui.
Roman, toujours.
Ouais, un d'accord. Roman, des films, des choses, oui.
D'accord, ok. Ouais. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Donc, on se rencontrait pour Sfumato, vous le prononcez bien mieux que moi, paru chez Le Passage.
Voilà, merci. Merci à vous.
C'était l'interview des Poches sous les yeux, en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des Poches sous les yeux. I'm gonna have to get it.